jusqu'à 9h, mettez-vous au vert. C'est Jardin Bleu avec Philippe Munier.
8h10 jusqu'à 9h, et bien vous nous appelez à ce numéro, le 02 99 67 35 35, pour parler jardinage avec notre maître à tous. Il s'agit de Philippe Munier qui est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour Félix, bonjour à tous.
Alors, un petit temps breton, là, un petit peu de pluie, mais des éclaircies cet après-midi, ce qui va peut-être être favorable au jardin, Philippe.
Oui. Bah, écoutez, on a pleuré après la pluie. Maintenant qu'on l'a, on va pas pleurer parce qu'il pleut quand même.
Voilà.
Hein, restons cohérents un petit peu. Alors, c'est vrai que c'est sympa pour les pelouses, c'est sympa pour le potager, c'est pas sympa pour les estivants. Bon, allez, il va faire meilleur, j'en suis sûr, il va faire meilleur, c'est évident. Donc, il fera meilleur pour les estivants, il fera plus chaud pour mûrir les tomates, donc on sera encore tous contents. Et puis, de toute façon, comme on n'y peut rien, autant prendre ce qui vient et le prendre avec le sourire tant qu'à faire.
Voilà, alors que doit-on planter actuellement là ? Est-ce que c'est la période des plantations ou il faut attendre un petit peu ?
On est un petit peu dans une période de creux, un petit peu, hein, parce que justement cette pluie qui arrive, cette fraîcheur, ça nous fait penser plus au mois de septembre qu'au mois de, au mois d'août. Hein, la canicule, elle est à mon avis pas tout de suite. Donc on peut penser à tout ce que on pourrait faire au fameux printemps de la Saint-Fiacre, qui traditionnellement commence le 31 août et qui permet pendant tout le mois de septembre de replanter tout un tas de choses et de semer tout un tas de choses. Donc il y a ça. Et puis d'autre part, pour les retardataires, eh bien, on peut encore planter des poireaux d'hiver et on peut encore semer des carottes d'hiver. Il faut se dépêcher, parce que plus on attend, moins ils vont grossir, c'est tout. Hein. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu qui tienne la route, comme on dit. Donc, si vous tardez trop, eh bien, vous aurez des toutes petites carottes et des tout petits poireaux. Ça fera des tout petits pot-au-feu, ça sera vraiment dommage.
Bah oui. Vous nous appelez 02 99 67 35 35. Vous posez vos questions à notre ami Philippe Munier sur tout ce qui touche, bien sûr, au jardin, au jardin. Aux plantes, aux fruits, aux légumes. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
Cet été, Félix, vous nous emmenez au camping.
Eh oui, on plante la tente, on garde le camping-car et que tout soit propre.
Les voisins, ça devient des copains.
Ah ben, obligatoire pour la partie de boule.
Et l'apéro.
Bienvenue au camping, c'est tous les jours à
6h10, 15h20 et 18h50.
Sur France Bleu Armorique.
France Bleu Armorique, au cœur de la Bretagne.
Allez, on se bouge un petit peu, c'est l'été, on va danser dans le Jardin Bleu. Ah bah ouais, un Jardin Bleu dans lequel on peut danser, c'est pas sympa ça. Et c'est sur France Bleu Armorique. Chic, good times. Chic, Good Time sur France Bleu Armorique à 8h15.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 9h.
Et nous accueillons Chantal qui nous appelle du Gouret. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Hop là, on va vous demander de baisser votre radio, Chantal, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'autrement, il y a Tonton Larsen qui va venir dans les tuyaux. Alors, votre question, Chantal.
Oui, je voulais vous demander comment qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer le trèfle blanc dans la pelouse.
Oh là là là, le trèfle blanc dans la pelouse. Alors déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est bien utile de l'éradiquer? Bon, alors si vous avez répondu oui, je vais vous donner le moyen de le faire naturellement. Pourquoi est-ce qu'il y a du trèfle qui arrive dans la pelouse? Simplement parce que votre pelouse, vous oubliez la nourrir. Hein, une pelouse, il ne faut pas oublier que c'est des milliers de petits êtres vivants qui s'appellent des brins de gazon, les uns à côté des autres, et que tout être vivant, comme vous comme moi, comme les brins de gazon, ils ont le droit de manger. Et si vous ne leur donnez pas à manger, et ben à un moment donné, ils sont mal. Et là, il y a une plante qui s'appelle le trèfle qui a la capacité de manger, de vivre de l'air du temps, de manger ce qu'il y a dans l'atmosphère, et donc qui peut s'installer sur ce terrain pauvre parce que vous ne le nourrissez pas. Donc si vous voulez enlever le trèfle au profit du gazon, eh bien, il suffit simplement de commencer à donner à manger à votre gazon. Lui, il va grandir, le trèfle, lui, va dépérir, et donc tranquillement, en l'espace de... Oh, en général, ça dure une petite année, on va dire une saison, hein, on arrive à faire disparaître complètement le trèfle au profit du gazon. Alors comment faire? Bon, maintenant, vous attendez tranquillement quand même la fin de l'été, on va dire à partir de la troisième semaine d'août, vous voyez, il n'y a plus trop longtemps à attendre. Vous achetez en jardinerie un très bon engrais gazon organique, je précise bien organique, hein, c'est très important. C'est le plus cher, vous inquiétez pas, hein, mais par contre, il vaut mieux mettre un petit peu d'argent si on veut avoir un bon résultat. Vous mettez la dose indiquée sur la boîte, pas plus, ça ne sert à rien, et puis vous faites donc un apport fin du mois d'août, grosso modo. Vous ne faites plus du tout après, surtout pas, et puis au mois de fin février, début mars, vous referez un apport sur votre gazon, puis un autre à tout casser aux alentours du mois de mai, et théoriquement, ça doit être terminé, le trèfle disparaît et votre gazon est beau, tout vert, dans pleine forme, et puis vous faites attention, elle parle de tondre à ras des pâquerettes, un gazon, ça doit être tondu au minimum à 6 cm. Alors prenez votre petite règle graduée, allez voir à quelle hauteur vous tondez actuellement, et vous allez voir que vous êtes certainement beaucoup trop bas, et ça c'est très mauvais pour le gazon, et c'est excellent pour le trèfle.
Oui. Et est-ce qu'on pourrait mettre des déchets de laurier palme qu'on a broyé, est-ce qu'on peut le mettre dans la terre?
Alors, dans la terre, non, sur la terre, oui. Hein, donc on n'enfouit surtout pas les déchets juste broyés, on s'en sert en paillage, il n'y a aucun problème. Le laurier palme, alors vous avez intérêt d'abord à laisser en tas fermenter pendant 8-10 jours, pas plus, hein. L'avantage c'est que ça va bloquer la capacité des morceaux de branches du laurier palme à bouturer, parce que sinon si vous le broyez juste après vous l'étendez sur le sol, tous les petits morceaux de bois risquent de bouturer, ou en tout cas 1 sur 10, et ça fera déjà beaucoup. Donc si vous le laissez fermenter pendant 8-10 jours, ça suffit, et là vous n'aurez aucune bouture qui démarrera, et ça vous fera un très bon paillage qui protégera vos massifs contre le dessèchement, contre l'excès d'humidité et contre les vilaines herbes sauvages.
Coucou.
Voilà Chantal.
Bon dimanche.
À très bientôt, au revoir, bon dimanche. Thérèse nous appelle, elle de Auray. Bonjour Thérèse.
Oui, bonjour.
Votre question, Thérèse.
Oui, j'aurais aimé savoir ce qu'il faut faire avec des courgettes. J'ai de très belles courgettes longues et rondes, mais il y a beaucoup de tiges frêles, des tiges mâles avec des fleurs mâles. Qu'est-ce que je peux faire?
Attendez, vous avez les courgettes elles-mêmes, là, le fruit se forme ou se forme pas?
Oui, il y a certains fruits qui se forment quand même, mais il y a énormément de fleurs mâles.
Non mais les fleurs mâles, ça vous n'y pouvez rien, c'est juste, c'est facile, enfin, si, vous y pouvez quelque chose en fait. Plus la plante est en forme, bien trop nourrie, trop abreuvée, et plus elle fait des fleurs mâles, moins quand elle souffre un petit peu, qu'elle a pas trop à boire, faut quand même pas limiter trop, mais surtout à manger, donc pas mettre trop d'engrais liquides par exemple, parce que je connais des gens qui mettent des engrais liquides aux courgettes, ça c'est très mauvais, hein, ça fait de la fleur mâle, ça fait pas de fleur femelle. Donc faites attention, les nourrissez pas trop, et de toute façon dès que les températures vont remonter, elles feront des jolies fleurs femelles, et puis les bourdons vont faire le travail entre la fleur mâle et la fleur femelle, et vous aurez des belles courgettes.
Je vous remercie. Voilà, j'ai ma réponse.
Eh ben voilà, merci. C'est très bien, Thérèse. Merci. Bon dimanche, au merci. Revoir. Marcel nous appelle du Roque-Saint-André. Bonjour, Marcel.
Bonjour, Philippe. Voilà, j'ai un problème. J'ai des tomates qui commencent à rougir, et puis il y en a qui sont bonnes à manger. Mais j'ai des taches dessus grisantes, noires. Un peu noires, vous savez, dessus. Alors, qu'est-ce que c'est pas de vous que ça peut venir?
Alors ça peut être plein de choses, hein. Les taches sur une tomate, si je les vois pas, puis je vois pas les feuilles en même temps, je peux pas vous dire. Mais par contre, ça peut être énormément de choses. Ça peut être de l'oïdium. Or, on a des températures qui sont tout à fait propices à l'oïdium en ce moment. Ça peut être du mildiou. Ça peut être du mildiou qui démarre. Dans certains cas, les taches noires sur les tiges et sur les fruits, ça peut être de l'anthracnose. Donc il y a plusieurs maladies dues à des champignons.
Mais là, c'est pas le mildiou. Je pense pas, parce que les feuilles, le plant, il est bon, hein.
D'accord. Il y a rien dessus. Mais dans ce cas-là, bon, ça peut être c'est sans doute une maladie à champignons. La première réaction déjà, ce que vous pouvez faire, c'est la pulvérisation de bicarbonate de soude. Il faut pas des grosses quantités, hein, c'est une cuillère à soupe maximum pour un litre d'eau, hein, vous pulvérisez. Mais faut savoir que les fruits qui sont tachés vont pas se guérir, c'est foutu, hein. Donc vous les laissez finir de mûrir et vous les mangez. Par contre, une dépulvérisation tous les 10 jours au bicarbonate de soude, en général, vous bloquez la maladie, donc les autres fruits ne seront pas malades.
Ah d'accord, j'essaierai ça. D'accord.
Eh ben, merci bien.
À très bientôt, bon Marcel. Bon dimanche.
Merci bien, au revoir.
On continue avec Pierrick qui nous appelle de Plouane dans les Côtes d'Armor. Bonjour Pierrick.
Bonjour Félix. Voilà, ouais, je me permets de vous appeler là parce que dans mon jardinet là, j'ai une plante qui ressemble à un trèfle, à son épin, et il y a un bulbe au pied et ça pullule, je ne peux pas m'en défaire. Alors je me demande un avis. Voilà.
Philippe, que peut-on faire ?
Ah ben malheureusement il s'agit de l'oxalis et là il n'y a pas de solution miracle. Il y a deux solutions. La première solution, on arrache, et dans ce cas-là ça dure longtemps et c'est casse-pieds, c'est fastidieux et ça marche pas tout à fait. Donc si sur des petites surfaces, sur des petits volumes, c'est jouable. Sur des grands volumes, il faut essayer de vivre avec, sachant quand même que comme toutes les plantes, l'oxalis, lorsqu'on l'empêche d'avoir des feuilles, on se rappelle que c'est dans les feuilles que se fabrique la sève qui nourrit les plantes. Donc si on l'empêche d'avoir des feuilles, elle peut plus se nourrir, donc elle va taper dans les réserves, donc dans les bulbes, jusqu'au moment où il n'y aura plus de réserves dans les réserves, et là elle mourra, hein. Donc si vous les binez régulièrement pour les empêcher de fabriquer leurs feuilles, eh bien vous les faites non pas disparaître, mais vous faites réduire la quantité. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, ce sont des plantes qui sont relativement peu concurrentielles pour les légumes du potager, donc on peut supporter qu'il y en ait dans le potager, ça ne fait pas diminuer les rendements. La seule chose, c'est qu'il faut régulièrement justement les calmer, passer la binette et pailler, parce que comme c'est une plante qui ne supporte pas la concurrence, si vous paillez entre les rangs de vos légumes correctement, eh bien ça l'empêche de se développer et donc ça la réduit énormément. Mais il n'y a pas de solution pour l'éradiquer, malheureusement, en tout cas pas en ce moment.
Je pensais mettre une bâche noire dessus, là, moi, ça pourrait peut-être les faire crever.
Alors
ça,
non, pas du tout. La bâche noire, tous les bulbes vont se durcir et puis vont se mettre en attente. Et si vous enlevez la bâche dans 5 ans, ils repartiront tous.
Très bien, je vous remercie Philippe, je vous souhaite un bon dimanche.
À vous également, Pierrick, bon courage.
Merci, au revoir.
Au revoir. Denise nous appelle de Bain de Bretagne. Bonjour Denise.
Bonjour, les jardiniers.
Oh. Enfin, le jardinier surtout, hein, Philippe, parce que moi je suis un tout petit jardinier, mais c'est pas grave, il y a un début à tout. Oui. Votre question, Denise.
Oui, alors moi je suis envahie de liserons dans mes fleurs, mes rosiers, tout. Alors plus je l'arrache, plus j'ai l'impression qu'il y en a. Malgré que je arrache au maximum dans la terre, hein.
Oui. Alors malheureusement, le liseron, c'est vraiment la plante des vieux jardins qui ont été bien entretenus. C'est difficile à dire, mais c'est pourtant le cas. Lorsque pendant des années et des années, on a apporté à son jardin du bon fumier, des feuilles mortes pour que les massifs soient paillés, etc. Tout ça s'est décomposé en humus. Puis une partie de l'humus avec les pluies régulières, il est descendu dans le sol. Alors tant qu'il est dans les, on va dire 20-30 premiers centimètres du sol, il est utile pour les plantes. Par contre, dès qu'il arrive en dessous de 30 centimètres, centimètres, il devient un humus qu'on appelle entre guillemets fossile. Et là, du coup, les plantes ne savent pas l'utiliser. Il se met à fermenter dans le sol et c'est pas bon pour le sol. Et la seule plante qui est capable d'aller le récupérer, enfin, il y en a deux malheureusement, c'est deux plantes préférées des jardiniers, c'est le liseron et le chardon. Hein. Ces deux plantes, c'est sur les deux plantes qui sont capables d'aller chercher l'humus profondément, les humus fossiles comme ça, et les remonter en surface. Et malheureusement, y a pas grand chose à faire, si ce n'est comme vous le faites, très bien, continuez, la binette, le courage, la patience, on va pied par pied, on arrache le plus gros des grosses racines blanches très charnues. Alors surtout, ne les mettez pas au compost directement, faites-les d'abord sécher le plus longtemps possible. Alors en ce moment c'est un petit peu dur parce qu'il pleut tous les jours, mais quand il y a du beau soleil, ça sèche très très bien, et quand elles sont bien desséchées, vous pouvez les mettre au compost, il n'y a pas de problème. Mais si vous les mettez fraîches, elles vont redémarrer. Mais il n'y a malheureusement que cette solution-là, et vous verrez qu'au bout de 2-3 ans, il faut attendre, il faut être patient, votre travail sera bien visible.
Ben je vous remercie, mais le liseron, je le mets à la déchetterie. Je ne le mets pas
dans votre compost.
Par contre, je mets la pelouse autour des arbustes et tout ça pour les empêcher de dessécher quand il y a des chaleurs. Est-ce que c'est bon?
C'est très bien si vous mettez de la pelouse sèche. Hein, votre pelouse, vous la tondez en fin de matinée, vous la laissez sécher toute l'après-midi, vous la récupérez le soir pour la mettre au pied des arbustes, ça c'est très bien. Si vous la mettez fraîche, vous risquez d'avoir des fermentations qui peuvent faire mourir les arbustes. Donc faites attention, et faites-la un petit peu sécher. Une après-midi, ça suffit, mais faites-la sécher avant de la mettre en paillage.
Je vous remercie beaucoup.
Voilà, Denise.
Je la mettais fraîche, moi, donc il ne faut pas que je fasse ça. Voilà.
Voilà.
Eh ben, merci de votre information et je vous souhaite un bon dimanche. Et
bon dimanche à vous.
Merci et encore le plaisir de vous entendre avec vos bons renseignements. voilà, je suis envahie aussi de fleurs, mais voilà que le nom m'échappe. En ce moment, une petite racine de rien du tout, ça repousse. C'est de la famille des dahlias, un peu, c'est très joli quand c'est fleuri, mais j'en ai plein. Le nom m'échappe.
Mais c'est pas grave, donnez-les aux voisins.
Comment ?
Donnez-les aux voisins.
Hein, j'en ai donné, je m'en suis débarrassée. Mais plus j'en débarrasse, plus j'en ai.
Ah ben oui, il faut aller un peu plus loin, voir les autres voisins.
La nature est généreuse.
Voilà, Denise, on vous souhaite un bon dimanche et on vous dit à très très bientôt. Philippe, on va se quitter quelques petites minutes puisqu'on va retrouver l'information. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous poser des questions, eh bien, vous composez ce numéro, le 02 99 67 35 35. C'est Angélique qui vous accueille au Standard de France Bleu Armorique et nous sommes ensemble, nous, jusqu'à 9h. On se retrouve dans quelques petites minutes. Borders of sun.
Bonjour, je m'appelle Dan Arroise. J'ai tendance à dire que je viens de Cornouailles parce que Quimper se situe dans un pays vraiment magnifique qui s'appelle la Cornouaille, avant que Napoléon décide de trancher dans la Bretagne et de faire des départements. La Cornouaille est un endroit vraiment superbe avec une multitude de gens différents, de Douarnenez à Concarneau, Becmey, Sainte-Marine. Je suis fasciné encore aujourd'hui de voir toutes ces différences que ce pays, entre autres, parce que si vous allez ailleurs en Bretagne, vous trouverez aussi ce genre de différences. Mais ça, ce sont un peu les miennes, celles que je côtoie, celles que je connais depuis ma plus tendre enfance. Et donc, si vous visitez la Cornouaille, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est n'oubliez rien. En faisant 20 km, vous trouverez quelque chose de différent, une mer différente, une côte différente. Et des gens, malgré les voies express et malgré Internet et le haut débit ou la fibre, des gens qui ont gardé au fond d'eux-mêmes des différences qui restent ineffaçables. Pour moi, toutes ces différences, c'est comme un peu des tribus, mais qui s'entendent et vivent ensemble. Alors, je vous souhaite vraiment de belles vacances en Bretagne, quel que soit le lieu que vous choisissez, mais passez d'abord en commençant peut-être par Douarnenez avec sa baie, et puis descendez plus vers le sud, vers Quimper, et bon été à tous.
Ils aiment leur pays, ils chantent la Bretagne. France Bleu Armorique aime l'album Braise et Mabro.
Avant de retrouver Philippe Munier et ses conseils concernant le jardinage, eh bien nous retrouvons, nous, l'information, puisqu'il est 8h30 et c'est l'heure du journal qui est présenté par Virginie Le Guen.
Le PSG remporte le trophée des champions, le 5e d'affilée, et il peut dire merci à sa dernière recrue, Dani Alves. Lui vise le triplé aux mondiaux de natation, son plus beau cadeau avant la retraite. Camille Lacour, favori de la finale du 50 mètres d'eau. Son entraîneur y croit, vous l'entendrez. Et puis dans le journal aussi, l'inquiétude des professionnels du tourisme. Nous irons dans l'Hérault. Les vacanciers sont là, oui, mais ils regardent à la dépense. Le temps.
Encore des nuages, Virginie, pour débuter cette journée, mais on profitera de belles périodes ensoleillées cet après-midi, avec des maximales qui atteindront les 21 degrés à Vannes, les 22 degrés à Rennes. Les minimales atteignent 17 degrés.
Et c'est une rentrée réussie pour le PSG, vainqueur face à Monaco 2-1 hier. Les Parisiens remportent le trophée des champions pour la 5e année consécutive. Bruno Solomon, ça n'était pas très bien parti, mais la dernière recrue du club, Dani Alves, ça fait la différence.
En une rencontre officielle, Dani Alves a fait voir ce qu'il allait apporter au PSG. Sa soif de gagner, sa grinta, son expérience, son sens du jeu, Alves a fait une prestation XXL face à Monaco. Et ses coéquipiers, à l'image de Javier Pastore, ne pouvaient que saluer la performance.
Son premier match officiel, il a fait un grand match. Alors, on est content avec lui. On attend toujours qu'il se trouve bien avec l'équipe et qui nous va donner beaucoup de satisfaction à nous.
Du haut de ses 34 ans et de son palmarès impressionnant, Alves semble déjà comme chez lui au PSG. Il fallait le voir hier soir danser sur la pelouse à Tanger, trophée à la main avec certains jeunes du club. Son intégration semble excellente, Thiago Motta confirme.
Personnellement, je ne suis pas surpris. Son adaptation, elle était très très vite, mais ce n'est pas surprenant car ça traite d'un grand joueur. Plus il a la qualité pour jouer n'importe quelle équipe au monde et nous avons le privilège d'avoir lui avec nous et ça fait du bien.
Alves est donc déjà chez lui à Paris et pour se sentir encore mieux, il ne lui manque qu'une seule personne, celui qu'il considère comme son petit frère, celui qu'il a tous les jours au téléphone et que le PSG espère. Neymar.
Bruno Salomon pour France Bleu. Elles vont tenter de décrocher leur ticket pour les demi-finales. L'équipe de France féminine affronte l'Angleterre en quart de finale de l'Euro de football ce soir. Le coup d'envoi, c'est à 20h45. Quoi de mieux pour terminer sa carrière qu'une nouvelle médaille autour du cou? Le défi de Camille Lacour. Le nageur français s'apprête à prendre sa retraite et il est archi-favori de la finale du 50 mètres d'eau aux mondiaux de natation. C'est ce soir et son entraîneur Romain Barnier est très confiant.
C'est pas le genre d'athlète à se laisser embêter par une dernière course. C'est le genre d'athlète à aller faire mieux sur la dernière course parce que c'est la dernière. J'ai juste envie de me régaler à voir ce qu'il est encore capable de faire et sur quel ressort psychologique il va aller jouer pour faire une perf. Ça m'intéresse d'apprendre. Cette situation-là, elle est inédite pour un nageur, de se présenter avec si peu de préparation, mais d'être quand même compétitif. Donc plutôt que de la juger, je me dis comment je peux apprendre de ça.
Romain Barnier, l'entraîneur de Camille Lacour. Deux autres Français à suivre aujourd'hui. Jérémy Stravius sur le 50 mètres d'eau et puis la Française Anna Santamans sur le 50 mètres nage libre. 8h33 sur France Bleu. Au Venezuela, l'opposition appelle à intensifier les manifestations aujourd'hui. C'est jour de vote. Les électeurs sont appelés à élire l'Assemblée constituante qui sera chargée de modifier la Constitution. Un scrutin boycotté par les opposants au régime. Ils accusent le président Nicolas Maduro de vouloir étendre ses pouvoirs. Sécurité et contrôle renforcés pour tous les vols au départ ou à destination de l'Australie. 4 personnes sont en garde à vue aujourd'hui. Les autorités estiment qu'elles menaçaient de commettre un attentat à la bombe dans un avion. STX va-t-il devenir un grand champion de l'industrie navale européenne? C'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement. Il propose à l'Italie d'élargir les négociations concernant les chantiers navals à une coopération militaire. Information révélée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire dans le journal du dimanche. Il ne manquait presque plus qu'elles. 120 enseignes de l'habillement peuvent désormais ouvrir le dimanche dans les zones touristiques. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la corde branche. Ouverture le dimanche, mais les vacanciers sont-ils prêts à dépenser? Pas vraiment, à en croire les professionnels du tourisme. Pas de chiffre officiel pour le mois de juillet, c'est encore trop tôt. Mais à la grande motte, Morad Djapari, les commerçants font grise mine.
Sur le front de mer, difficile de trouver un commerçant avec le sourire. Pour certains, le mois de juillet a été en demi-teinte et pour d'autres...
Super mal, le mois de juillet, ça a été catastrophique.
Marie-Laure a une boutique de souvenirs.
Au moins 30% sur notre chiffre d'affaires par rapport aux autres années, quoi. Ils n'ont pas d'argent, quoi. Ils n'ont rien, quoi. ils viennent, ils vont à la mer, ils vont à l'appartement de la mer, l'appartement de la mer. Ils font un tour le soir et c'est bon, c'est fini.
Des touristes qui ne mettent pas la main à la poche, c'est aussi ce que constate Olivier. Son restaurant face à la mer peine à faire le plein.
À partir du 14 juillet, d'habitude, on a la tête dans le guidon jusqu'au 20 août. Il se trouve que là, bizarrement, cette année, nous avons une fréquentation qui est importante, mais je pense qu'on a un pouvoir d'achat qui est calculé, limité et qui reste restreint.
Et pourtant, le soleil est au rendez-vous, mais les journées sont parfois longues. Reynald croise peu de clients dans sa boutique de savon. Les affaires se font plutôt une fois la nuit tombée.
On ne peut pas dire que dans la journée, il y a un gros passage. Et bon, le soir, ça consomme davantage. Les gens sont dans les boutiques, mais avec un montant d'achat inférieur également à l'année dernière.
Reynald espère que le mois d'août va remplir de nouveau son magasin de clients et son tiroir caisse.
Mourad Djabari dans l'Hérault pour France Bleu. Si le départ, c'est aujourd'hui pour vous, sachez que ce dimanche est classé orange partout en France. C'est vert dans le sens des retours, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'arc méditerranéen. Au Pays Basque, on s'apprête à dire au revoir au Roi Léon, fin de la 81e édition des fêtes de Bayonne aujourd'hui. Et dernier jour donc pour rencontrer, pourquoi pas, l'âme sœur. Car oui, Oyana Larsabal, les fêtes de Bayonne, ce n'est pas seulement des histoires d'un jour.
De vraies histoires d'amour sont nées aux fêtes de Bayonne. Hervé, par exemple, y a trouvé sa moitié.
Moi, il y a 5 ans, j'ai croisé les plus beaux yeux de Bayonne. Elle s'appelle Elodie.
Mais en fait, il s'est arrêté devant moi et je l'ai regardé. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Il s'est approché de moi et m'a dit « Tu as les plus beaux yeux de Bayonne ». Et moi, je l'ai regardé, je fais « Oh non, un autre boulet ». Et le boulet, 5 ans après, il est avec moi, ouais. Ouais, ouais.
Les fêtes et l'amour.
Mariage ou pas ?
Non. Un jour.
Guillaume de Rouen avait fait une rencontre l'an dernier aux fêtes de Bayonne. Alors il est revenu cette année pour tenter de la retrouver, aidé de son copain Romain.
Il a demandé une fille en mariage l'année dernière, mais elle n'a pas voulu. Donc cette année, il espère la revoir, mais on ne sait pas si elle va venir.
Elle s'appelle comment ?
Caroline. C'est la femme de ma vie.
Ouais, donc elle nous a dit que normalement, rendez-vous l'année prochaine et on va faire le même itinéraire. On verra bien si elle vient, quoi.
Eux étaient bien au rendez-vous jeudi dernier pour leur mariage. Marie et Eric se sont dit oui pendant les fêtes de Bayonne cette année. Une union bénie par le roi Léon.
Reportage de Yana Larsabal, le départ du roi Léon, c'est ce soir à minuit. Et puis tiens, je suis sûr que vous allez l'avoir dans la tête toute la journée.
I'll be back,
la réplique culte d'Arnold Schwarzenegger dans le film Terminator. L'acteur américain fête ses 70 ans aujourd'hui. 8h37 sur France Bleu.
Pour emporter France Bleu partout avec vous, s'informer, se divertir, téléchargez et installez gratuitement l'application France Bleu sur votre smartphone.
La météo, qu'est-ce que ça donne ?
Eh bien Virginie, encore un temps bien nuageux en ce début de journée. Le ciel, lui, deviendra plus variable au fil des heures. On profitera de belles périodes ensoleillées cet après-midi. Les cumulus seront parfois assez développés pour donner de faibles averses par endroits. Le vent de sud-ouest sera un peu moins sensible qu'hier, mais il faudra encore compter sur des pointes de 40 voire 60 km/h côté température, de la douceur ce matin malgré la grisaille. 14 degrés à Saint-Brieuc, 16 à Vannes, 17 à Rennes. On attend pour les maximales de cet après-midi 21 degrés à Saint-Brieuc, 21 à Vannes et 22 degrés à Rennes.
La météo avec Murprotec Bretagne, solution définitive contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur www.murprotec.fr.
Sur la route, attention, si vous devez vous prendre l'avenue Janvier de Rennes, la deuxième partie de l'avenue Janvier est bloquée due à un carambolage suite à un contrôle, un routier qui s'est mal terminé avec un fuyard qui a accidenté une voiture relativement grave. Donc la partie vers la gare est libre. Donc si vous arrivez du boulevard de la Liberté, que vous prenez sur votre droite vers la gare, là vous pourrez rouler. En revanche, si vous devez prendre à gauche au bout du boulevard de la Liberté, eh bien là, vous serez obligé de prendre une déviation. Si vous êtes témoin de ralentissement, d'incident, merci de nous appeler au 02 99 67 35 35. On fait la route ensemble.
Jusqu'à 9h, mettez-vous au vert. C'est Jardin Bleu avec Philippe Munier.
Allez, on se met au vert dans le Jardin Bleu, toujours en compagnie de Philippe Munier qui est avec nous jusqu'à 9h. N'hésitez pas à nous appeler afin que Philippe puisse vous donner des conseils. Et nous accueillons Yvette qui nous appelle de Plélan-le-Grand. Bonjour Yvette.
Bonjour monsieur. Et voilà, nous avons des problèmes. Nous avons deux pruniers et nous avons récolté beaucoup de prunes pourries. Donc deux grands sauts. Je voulais savoir si vous pouvez les enfouir. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ?
Ah, des fruits pourris, où les mettre, Philippe ?
Oui.
Alors, ça dépend. En fait, il faut faire attention. Si les prunes pourries en question ont été attaquées par la moniliose, qui est un champignon...
Non, elles sont très bien. C'est Sauf qu'il y en avait pourri, mais j'ai fait beaucoup de concerts avec le reste.
D'accord, mais elles sont pourries comment? Le problème, c'est de savoir, c'est, est-ce que c'est un champignon qui les a pourries ou est-ce qu'elles étaient trop mûres?
Ah, c'est trop mûr.
Ah d'accord, bah, si c'est trop mûr, il n'y a pas de problème. Ça, vous pouvez les mettre au compost, elles vont se décomposer. Alors, il ne faut pas les enfouir. Hein. Enterrer la matière organique, c'est une aberration. Il faut les mettre en surface et les mélanger. Le volume de prunes que vous avez, vous le mélangez avec quelque chose d'un peu sec, comme de la paille, du carton, des broyats de bois, des choses comme ça. Et vous le remuez deux, trois fois, ça va se transformer en humus, en très bon compost, et vous pourrez le réutiliser dans votre jardin. Hein, c'est important, par contre, de ne pas faire ça ou si on fait ça avec des fruits qui ont été attaqués par un champignon, eh bien, faut pas le réutiliser au pied du prunier. Hein, on peut l'utiliser pour aller mettre ça sur des choux ou des patates, pas au pied du prunier. Voilà.
Mais les noyaux vont pas repousser.
Ou la plupart des noyaux ne vont pas repousser. Non, y en a deux trois qui vont peut-être redémarrer, mais ça sera tout quand on mélange comme ça. Ça provoque une chaleur suffisante pour désactiver la capacité germinative des noyaux.
D'accord. Merci
voilà
beaucoup.
Yvette, à très bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.
Étienne nous appelle de Rennes. Bonjour Étienne.
Bonjour messieurs. Voici ma question. À quelle époque ou à quelle lune il faut écussonner les pêchers?
Philippe.
Alors moi personnellement, la lune, je n'ai pas le temps de m'en occuper, donc je fais les choses quand j'ai le temps de les faire et je regarde pas la lune. Donc l'écussonnage sur le pêcher, on peut le commencer normalement, traditionnellement, à partir de la troisième semaine d'août et pendant tout le mois de septembre, on peut aller jusqu'à la première semaine d'octobre. Voilà, et vous le faites le jour où il fait beau, il fait clair et vous avez le temps de le faire. Donc, je ne regarde pas la lune parce que j'ai pas encore le temps. Peut-être que quand je serai à la retraite, j'aurai le temps de regarder la lune.
Philippe, vous avez les pieds sur terre, vous n'êtes jamais dans la lune.
Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est pas sûr, mais bon. Donc, voilà.
En lune, pardon. En lune montante ou en lune descendante?
Bah, je vous dis, moi, je regarde pas ça. Donc, théoriquement, pour la lune, le greffage devrait plutôt être, à mon avis, en lune descendante, je pense, pour que ça fasse du bois. Mais pour moi, la lune, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, c'est pas ce que je regarde. Je regarde, est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce que j'ai des beaux greffons? Est-ce que mon porte-greffe est prêt? Est-ce qu'il est dans de la bonne terre? Voilà, c'est ces paramètres-là que je regarde. La lune, j'ai pas le temps.
Voilà. Bon courage, Étienne. À très bientôt, au revoir.
À très bientôt.
Albert nous appelle de Guipry-Messac. Bonjour, Albert.
Oui, bonjour. Alors moi, je voudrais m'adresser à votre spécialiste jardinage. Je suis inquiet avec un pied de bambou que je veux me débarrasser. Je l'ai donc coupé la tronçonneuse à ras, mais je voudrais surtout pas qu'il repousse. Comment l'empêcher de repousser sans polluer le sol?
Philippe.
Il y a plusieurs solutions. Hein. Soit vous voulez l'empêcher de repousser tout court, et dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est de l'arracher, hein, sachant que le bambou, les variétés les plus hautes font des rhizomes les plus hauts. C'est-à-dire que plus le bambou va pousser haut, et plus ces rhizomes vont être en surface du sol. Donc, ils sont très faciles à arracher, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est les petits bambous, les Pyobastus pumilius, qui sont tout petits, qui, eux, ont un enracinement très profond, et qui sont très, très difficiles à supprimer quand on a besoin de le faire. Donc, la meilleure solution, c'est l'arrachage, à la main ou avec une machine, si c'est un gros pied de bambou très bien installé, c'est quand même plus rapide avec une mini-pelle, ça va très très vite, hein, en quelques secondes, quelques minutes, vous avez tout enlevé. Le tout, c'est de bien enlever chaque morceau, de bien contrôler que chaque morceau est parti, mais c'est relativement facile. Après, si vous voulez garder juste une touffe de bambou et qu'elle ne s'étale pas, c'est facile aussi, il suffit de creuser autour de la touffe de bambou que vous voulez garder une tranchée de la largeur et de la profondeur d'une bêche. Donc les rhizomes ne savent pas traverser dans l'air, donc dès qu'ils voient la lumière, ils remontent vers le ciel. C'est comme ça, ça s'appelle un trophisme positif. Donc si vous faites une tranchée comme ça, la seule chose, c'est qu'il faudra la nettoyer régulièrement, parce que dès qu'elle sera obstruée par les feuilles mortes de bambou ou par des tombes de gazon, et bien là, les rhizomes pourront recommencer à traverser et attaquer la pelouse. Mais le système de la tranchée autour d'un pied de bambou, c'est utilisé par tous les pépiniéristes spécialisés du bambou et ça marche très très bien.
Non mais moi, mon problème, Philippe, c'est que je voudrais surtout pas qu'il repousse, jamais, parce que ça, il gêne même mon voisinage. Et donc, j'avais pensé mettre de la chaux vive dessus, de ne pas palmer le sol et qu'il ne repousse pas, surtout pas.
Alors, si vous mettez la chaux vive, vous allez bousiller votre sol. Donc déjà, ce premier objectif est loupé. Et en plus, ça ne lui fera rien du tout. Il s'en foutra complètement. Il redémarrera parce que le bambou il a la capacité de pousser dans toutes sortes de pH. Donc le fait de baisser le pH violemment, ça va lui donner un coup pendant 2-3 semaines. Et puis après, il va redémarrer. Donc si vous voulez vraiment le supprimer complètement, la seule solution, c'est l'huile de coude ou le gasoil de la mini-pelle. Mais c'est une solution mécanique. Et on prend le temps de le faire correctement et en extirpant le moindre petit bout de rhizome. Et ça marche très très bien. J'en ai fait expérience moult et moult fois. Hein. Si on le fait tranquillement sans s'énerver, ça marche très bien.
Voilà.
Merci Philippe et votre émission est formidable. Continuez. Merci.
Merci beaucoup Albert. Très bonne journée à vous. Daniel nous appelle de Campénéac. Bonjour Daniel.
Oui messieurs, bonjour.
Bonjour.
Félix et Philippe. Voilà, ça concerne des capucines. J'ai fait tout un parterre de capucines et je me suis aperçu que ces capucines-là n'étaient pas très jolies. J'ai rapproché le nez et c'est rempli de petits pucerons sauteurs. C'est-à-dire, dès qu'on y touche, paf, ça vole, ça s'expulse. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que je peux faire ?
Alors, ce que c'est, sans doute, ce sont des altises. A priori, c'est des petits insectes noirs, tout petits, qui font 2-3 millimètres, même pas, et qui s'envolent comme ça, qui sautent. Ce sont des altises. Alors, les altises, elles adorent tout ce qui est crucifère. Donc, ce qu'on appelait autrefois crucifère, maintenant, ça s'appelle les brachycacées, c'est-à-dire les choux, les radis, la roquette, etc. Mais parce que la feuille de capucine, elle contient la même substance que les feuilles de choux, surtout que la roquette ou les radis, vous savez, cette substance un petit peu piquante, eh bien, les altises adorent aussi les capucines. Mais par contre, les altises détestent le sol humide, donc la solution, c'est de bien pailler le sol et de le garder toujours humide, et les altises vont aller voir chez le voisin si lui ne fait pas attention à ses capucines. C'est aussi simple que ça, mais ça marche très très bien.
Tout simplement arroser
et pailler aussi parce que ça vous permet d'éviter de gâcher de l'eau. Hein, vous faites un bon paillage suffisamment fin qui va garder l'humidité. En fait, c'est des insectes qui adorent les sols secs, hein, donc ils sont enfouis dans le sol et puis hop, ils sautent sur la feuille, ils font un joli petit trou parce qu'ils ont bouloté, ils redescendent dans le sol s'abriter et si le sol est humide, comme ils détestent ça, eh ben ils vont voir ailleurs.
Ah d'accord, tout simplement. Eh bien, je vous remercie et vous souhaite un excellent dimanche à tout le monde.
Également, Daniel, très bon dimanche.
Bonjour, messieurs.
On se retrouve dans deux petites minutes, juste après les titres du journal.
France Bleu Armorique, au cœur de la Bretagne.
Les titres qui sont présentés par Théouetch.
C'est ce qu'on appelle une zone blanche à Camoël dans le Morbihan. Les habitants n'arrivent pas à capter le téléphone ou Internet et c'est une vraie galère au quotidien. Depuis le mois dernier, les opérateurs devaient avoir résorbé toutes ces zones blanches. Mais à Camoël, il y a encore du boulot, vous le verrez. Pour les vacances, comme pour le reste, on est parfois jamais mieux servi que par soi-même. Alors beaucoup de vacanciers bretons font confiance à la Bretagne et partent dans des campings de la région pour se reposer. On ira à Lancieux, dans les Côtes d'Armor. Mort. Attention, ça coince encore sur la route aujourd'hui. Du orange prévient Bison Futé. L'agence conseille d'éviter les grands axes entre 9h et 15h. Dernier match de préparation animé pour le Stade Rennais hier face à Lille. Les Bretons se sont inclinés 4-2 dans le Nord. Il faudra redresser la barre d'ici la semaine prochaine. Les Rouges et Noirs affronteront 3 pour la première journée de championnat.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 9h.
On retrouve là le jardinage en compagnie de Philippe Munier. Nous accueillons Jacques qui nous appelle de Bron. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Bonjour Jacques, votre question.
Alors c'est pour savoir quand est-ce qu'on peut transférer un rhododendron.
Philippe.
Alors, les rhododendrons, enfin, de toute façon, d'une manière générale, toutes les plantes à feuillage persistant, donc le rhodo en fait partie, se déplacent, se travaillent, on va dire, d'une manière générale, en demi-saison, donc printemps, automne. Donc, attendez tranquillement qu'il ne fasse plus trop chaud, que le sol soit bien mouillé. Bon, ça, il est bien en ce moment, c'est pas mal, mais qu'il ne fasse plus trop chaud. Donc, la meilleure période, c'est aux alentours du 15 septembre. Ou alors, si vous avez le temps, plutôt, c'est de le faire juste après la floraison, donc plutôt vers le mois de mai-juin, quoi.
Ok.
Voilà.
Bon, ben voilà, mais je vous remercie, c'est sympa.
Bon courage et faites attention, parce que la terre tient très peu sur les racines très fragiles du rhododendron, donc il faut bien arroser avant de la transplantation pour que la terre colle bien sur les racines. Plus vous emmènerez de terre avec les racines, et mieux il redémarrera.
Parce que, sauf erreur, les racines du rhododendron, c'est extrêmement fin.
C'est ça, voilà. Absolument, elles sont très fines et donc la terre se tient mal dessus. Et si les racines dessèchent, elles meurent. Donc il faut vraiment bien arroser la semaine précédant la transplantation, de manière à ce que la terre reste bien collée sur les racines et que la reprise se fasse dans les meilleures conditions possibles.
Et à la limite, faire une praline.
Même pas, il faudrait essayer d'éviter la praline, il faut garder la terre sur les racines, pas en rajouter.
D'accord.
Voilà Jacques.
Merci bien.
À très bientôt, bon dimanche. Nous sommes envahis, nous, par les fourmis, Philippe, c'est dû à quoi ?
Des fourmis, il y en a partout. Hein. Bon. L'envahissement, ça peut être parce qu'il y a quelque chose qui les intéresse pour casser la croûte, simplement.
Ouais. Donc, alors il va falloir qu'on trouve la solution.
Il faut trouver où est la source de nourriture. Une fois que vous aurez trouvé, il suffit de la supprimer, il n'y aura plus de fourmis.
Philippe, en attendant peut-être un appel au 02 99 67 35 35, quelques idées peut-être de sortie, des marchés aux plantes, des ouvrages peut-être à découvrir.
Alors, en fait, si vous allez vous balader du côté du centre Bretagne, vous pourrez... Ah ben non, c'était hier. Excusez-moi, je suis désolé.
Mais je vous en prie.
Bon, alors dans ce cas-là, je vais vous parler, parce que à partir de la semaine prochaine, je vous parlerai de fête des plantes, parce qu'il y en aura plein qui arriveront en Bretagne, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, je vais par contre vous parler d'un petit guide que j'ai trouvé super intéressant. Ça s'appelle le guide nature au jardin, et ça nous permet de découvrir toutes ces bébêtes dont on parle un petit peu souvent. Il y a des petites bébêtes, les altises, les pierrides, les machins, les bidules. Bah, toutes ces bébêtes-là, elles sont indiquées, elles sont dessinées, elles sont expliquées dans ce livre, ce qui vous permet de découvrir que ces bestioles-là, elles ne sont pas forcément si méchantes que ça, qu'elles ne font pas forcément que des bêtises dans votre jardin, et que plus il y en a dans le jardin, mieux c'est, et pas l'inverse. Donc, plus il y a de biodiversité dans le jardin, plus c'est intéressant, et ce livre vous invite à découvrir la biodiversité de votre jardin. Alors ça s'appelle le guide nature au jardin, c'est aux éditions La Salamandre, ça coûte 17 euros, mais c'est plein de choses très intéressantes. On vous parle des plantes, des petites bêtes, des oiseaux et surtout des trucs et astuces pour mieux avoir de la biodiversité au jardin.
Voilà, et je crois savoir, Philippe, que vous serez présent au marché aux plantes les 12 et 13 août. Ce sera à Merdrignac, un très très beau marché.
Oui, alors c'est ça le nœud, mais effectivement, je ne voulais pas vous en parler dès aujourd'hui. Je voulais vous faire une surprise pour la semaine prochaine.
Ah bon,
mais alors... vous avez craqué.
On va faire une petite promo pour ce marché.
Il n'y a pas de problème. Une grosse promo parce que c'est une première fois. Et donc, voilà, et autant que ça marche bien, effectivement, c'est le domaine de l'Aourdouinet, on dit l'Auneuc, hein, c'est ça ?
L'Auneuc, je crois, oui, absolument.
Hein, ouais. Et donc, oui, ça sera effectivement les 12 et 13 août. Et je pense que ça sera une très très belle fête. Donc, commencez à préparer vos listes de plantes pour pouvoir rencontrer des très très bons pépiniéristes de toute la Bretagne et plus, de manière à acheter des belles plantes pour mettre dans vos jardins.
Voilà, ce sera donc les 12 et 13 août à Saint-Launeuc. C'est dans les Côtes d'Armor, près de Merdrignac. On termine cette émission avec Yvonne, qui nous appelle de Rennes. Bonjour Yvonne.
Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je vous appelle, c'était pour savoir. On a des cerises tous les ans, et enfin, quand elles sont mûres, elles sont pleines de verre. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, Il y a deux choses, en fait. La première chose, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, sans aucun problème, au contraire, c'est de mettre au pied de vos cerisiers des poules. Hein, parce que, pourquoi ? Parce que la cerise, le petit ver qui est dans la cerise, quand la cerise tombe ou quand le ver tombe, il va se transformer dans le sol en pupe, parce que c'est l'asticot d'une petite mouche, et cette pupe, elle est dans le sol, dans les tout premiers centimètres du sol. Si vous mettez les poules à gratter au pied du cerisier, elles vont manger toutes ces pupes, et donc l'année prochaine, vous aurez plus de mouches à venir pondre ou beaucoup moins de mouches à venir pondre dans vos cerisiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque les cerisiers ont fleuri, que les cerises commencent à se former, elles sont même bien formées, quand elles commencent à passer du vert au jaune, eh bien, vous mettez dans votre cerisier, sur les extérieurs, des pièges jaunes qu'on trouve en jardinerie, qui sont des pièges collants, parce que la mouche de la cerise, elle est attirée par la couleur jaune. C'est pour ça qu'elle va pondre ses œufs dans les cerises lorsqu'elles sont jaunes. Donc, si vous mettez ces pièges jaunes, bah les mouches, au lieu d'aller pondre dans les cerises, elles vont venir se coller sur ces pièges et il suffira simplement de les remplacer régulièrement. Et dès que les cerises sont rouges, c'est plus la peine, vous pouvez les enlever, pas la peine d'avoir des oiseaux qui risquent de venir se coller dessus, comme des petites mésanges par exemple. Mais avec ces deux solutions-là, vous faites diminuer tellement la population de mouches de la cerise que vous ne serez plus embêté.
Voilà Yvonne.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. On va terminer avec Daniel de la Chapelle du Loup rapidement. Bonjour Daniel, votre question.
Oui, bonjour messieurs. Voilà, moi j'appelle au sujet de plants de kiwi. Nous avons des plants de kiwi qui étaient très beaux. Et il y en a un, celui qui porte les fruits, il a tout séché. Les feuilles sont toutes sèches, ainsi que les fruits. Alors je ne comprends pas pourquoi.
Je crains de savoir que lorsqu'il a fait très chaud au mois de juin, vous ne l'avez pas arrosé régulièrement.
Non.
Voilà. Et ben voilà. Et le kiwi ne supporte pas la sécheresse. C'est la seule chose que. C'est une plante très résistante. Il n'y a quasiment aucune maladie. Il n'y a pratiquement aucun ravageur. La seule chose qu'il ne supporte pas, c'est d'avoir le pied sec. Et s'il a le pied sec, ne serait-ce qu'une heure, il est fichu. Hein, donc, tous ceux qui ont des kiwis, sachez, hein, dès qu'il fait chaud, dès que la température augmente, c'est comme ça, des très grosses feuilles, le kiwi, il évapore énormément. Donc, comme il évapore énormément, il pompe énormément d'eau dans le sol, et quand il fait très chaud, eh bien, il faut lui apporter énormément d'eau, et surtout, il faut lui faire un épais paillage, hein, ses feuilles à lui, mais aussi de la tonte de gazon séchée, comme on le disait tout à l'heure, mais vraiment, il faut que le pied soit énormément paillé pour ne pas qu'il dessèche. Et ce qui est arrivé à votre kiwi, c'est qu'en fait, entre la préparation des fruits et l'évaporation pour survivre, eh bien, il a desséché, et ça, c'est fichu. Vous avez peut-être une petite chance qu'il redémarre, mais c'est vraiment une chance infime.
On va peut-être être obligé de changer, quoi, de mettre.
Voilà, d'en replanter un autre. Attendez peut-être quand même le printemps prochain pour le remplacer, mais prévoyez quand même le coup.
Ah oui, d'accord. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Hein.
À très bientôt, Daniel.
Bonne journée à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Philippe, merci beaucoup. D'autres noms, ouvrages, là, ça y est, tout a été dit.
Non, mais c'est bien pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous en faire plusieurs après, sinon on va
n'aura plus rien à
trop
dire.
De travail. On aura trop de travail pour les libraires.
Philippe, merci beaucoup. À très bientôt. Je n'aurai pas le plaisir de vous accompagner dimanche, puisque je serai en vacances. Donc, l'émission revient quand même de 9 à 10 dimanche prochain, même heure, même adresse. Merci, Philippe.
Écoutez, bonnes vacances.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Les Anglais, oui. À part les Beatles, les Stones, Kate Moss, les Monty Python, Pink Floyd, Blur, Oasis et la Reine, vous avez quoi?
Vous oubliez notre fish and chips.
Ouais.
Du 14 juillet au 20 août, l'été se met à l'heure anglaise sur Arte, dans Summer of Fish and Chips. Ce soir à 20h50, Highlander, avec Christophe Lambert et Sean Connery. Arte, ouverture permanente.
France Bleu, France Bleu.
Petit rectificatif, vous retrouvez bien sûr cette émission Le Jardin Bleu, même heure, même adresse, comme je vous l'ai dit, de 8 à 9 heures et non pas de 9 à 10 heures. Voilà, 8-9, ce sera dimanche prochain avec Philippe Huguet, bien sûr, pour parler jardinage ou Jardin Bleu.
Come and move in my direction. Thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, yeah.